Bienvenue au Polysécure épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent.
Salut!
Salut! Ça va bien?
Oui, ça va bien. Semaine off, mais ça va bien. Pas semaine off négatif, là, semaine off positive. Ça bouge. Dans mon petit monde professionnel, les choses démarrent à grands pas. C'est pas un petit janvier, on prend notre café tranquille. C'est janvier, on repart la machine, puis on met la pédale au fond. Puis c'est parfait comme ça, ça s'est occupé.
À fond de train. Mais de toute façon, yes. Ouais, c'est la réalité, surtout pour les gens qui travaillent en cyber. Je pense que les espaces de repos sont essentiels, justement parce que quand on repart directement au maximum, puis il n'y a pas vraiment de gradation tranquillou comme on avait l'habitude avant. Commençons avec les GMS Plug. On est toujours dans la vague Omicron. Là, au moment où on enregistre, il y a un tantinet de bonnes nouvelles sur l'allègement potentiel, considérant que la vague est en train de s'atténuer. Souhaitons que c'est effectivement vrai que ça va se réaliser. Rappel, les mesures, gestes barrières et ainsi de suite, sont quand même très importants. Même si vous êtes vacciné, les gestes barrières sont importants. D'agir, de respecter les autres, de respecter le fait que on essaie de minimiser les dommages sur les autres. Québec numérique revient avec la semaine numérique, du 4 au 8 avril prochain, dont le Sécur va faire partie du 4 au 6 avril prochain. On devrait divulguer les conférenciers au courant de février, donc ça s'en vient, c'est tout proche. On a plein d'intéressants, nous avons très hâte de les annoncer. Commençons avec les nouvelles. Je vais commencer avec, dans le fond, deux nouvelles qui sont relativement autour sensiblement de la même chose, c'est-à-dire Log4j. La première, puisque en tout cas, parce que ça a occupé bien des gens, puis ça a occupé des gens encore bien longtemps. La première, elle est intéressante, c'est que le FTC parle de poursuivre les compagnies qui auront été négligentes au niveau du correctif de Log4j. Il avait utilisé ces leviers-là avec Equifax il y a plusieurs années, justement, pour les punir à la hauteur de plusieurs centaines de millions à ce moment-là pour les de tout le fiasco qu'ils avaient fait. Par ailleurs, c'est un cas, ils sont pas très actifs dans cet univers des poursuites de négligence. Donc, il y a un doute à quel point ils vont utiliser ce levier-là pour faire peur aux gens, justement, ou aux compagnies d'être des bons citoyens corporatifs et d'agir de façon préemptive et de corriger correctement leurs choses. J'ai plus l'impression que ça va faire deux, trois cas, puis ça ne fera pas plus que ça. On est plus dans un univers où j'ai bien l'impression qu'on va devoir plus se retourner comme ce que la FBI avait fait, c'est-à-dire de corriger Exchange sans autorisation. Alors, on est comme dans un univers spécial parce que je pense que là aussi, il y a de la négligence. Je pense que l'État du capitalisme dans lequel on est rendu ne favorise plus l'excellence. Il favorise l'expression de ramasser le plus d'argent possible avec le moins de dépenses possible. Fait que ce faisant, on se retrouve avec le fait, on ne corrige pas parce qu'on s'en fout, parce qu'ils ne viendront jamais nous poursuivre. Donc, on vient mettre à risque par cette forme de négligence-là les citoyens, les informations des gens en général. C'est entre autres aussi pour ça que ce serait important qu'au-delà du FTC, qui est un organe qui régit les entreprises aux États-Unis, qu'il y ait une loi comme aux États-Unis en Europe, le RGPD, qui est justement un levier beaucoup plus probant sur le fait que les entreprises doivent agir de façon bienveillante avec les informations dont elles disposent et justement de corriger les vulnérabilités pour éviter une situation qui pourrait être problématique.
Écoute, moi je vois, c'est bien, c'est une forme de terreur que la FTC veut introduire justement pour que les compagnies soient plus vigilantes. Pas plus vigilantes, c'est pas vrai, qui corrigent la situation. Mais tu sais, si on veut une forme de pérennité, je serais peut-être d'accord à ce qu'un act, un bill, une réglementation, une loi, peu importe le modèle au niveau de la gouvernance, de peut-être renforcer. En fait, ce qui me fait peur, c'est que si on passe par cette acte-là, puis qu'on décide de faire une loi ou une réglementation d'un organe autoritaire dans un pays, une province, une zone, un secteur, peu importe, je trouve que ça devient un petit peu contraignant et on vient en fait brimer le libre choix des compagnies qui, dans certains cas, n'ont pas les compétences, ne peuvent tout simplement pas, sinon c'est un arrêt de service pour une durée qui fait mal au portefeuille, mal aux clients. Mais c'est juste un petit commentaire que j'aimais. Par contre, ce que j'aime bien ici, c'est peut-être une réflexion qu'on devrait avoir dans la gestion des risques de ces compagnies-là quand elles sont victimes d'un élément. Celui-là est très spécial. Là. On parle d'un événement qui a une ampleur mondiale. C'est peut-être de revoir notre modèle de taxonomie des risques d'un point de vue technologique au niveau de l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement qui utilise malheureusement ces faiblesses-là pour peut-être assurer une vigie plus communicative, pro-dynamique envers nos différents fournisseurs avec qui on fait affaire. Je le sais que pour beaucoup de compagnies, on fait une belle taxonomie de type maestro, puis on va voir les affaires, on a des résultats, puis on a des éléments de contrôle qui réduisent les risques. Puis ensuite de ça, on fait la déclinaison technologique pour voir s'il n'y a pas des technologies sur lesquelles on devrait aborder dans la taxonomie à faire pour s'assurer qu'au niveau des technologies, on met suffisamment de contrôle pour peut-être automatiser la réduction de certains risques, etc. Mais des fois, on reste dans notre univers. Pensez à vos fournisseurs. On fait affaire maintenant. Les compagnies font affaire maintenant sans trop le savoir en le sachant, mais l'information se perd parce que c'est peut-être pas documenté. La documentation est peut-être pas intégrée et totalement attachée. C'est toute la chaîne de production qui mène à une prestation de service éventuelle. C'est d'avoir un fournisseur ou un client au travers de votre chaîne d'approvisionnement qui ne se met pas à jour, ça devient le maillon faible au niveau des contrôles de sécurité en place. Moi, l'angle que je vois ici avec cet événement-là, c'est peut-être de revoir, raffiner, puis de briser un petit peu nos barrières bureautiques ou d'entité pour notre gestion de risque. S'assurer de prendre en compte nos fournisseurs, pas pour leur taper sur les doigts ou les forcer à rehausser leur contrôle, mais voir qui pourrait être le maillon faible dans votre chaîne d'approvisionnement, puis de trouver un partage de responsabilités, des mesures que vous pourriez mettre en place distinctement ou conjointement pour réduire ces risques-là. Peut-être assurer une vigie plus élargie aussi, donc augmentation de la capacité en termes de personnel, si on peut faire un partage de responsabilités avec vos différents fournisseurs, tout en limitant le périmètre, bien entendu, mais avec un partage de communication, puis un meilleur dynamisme, puis une plus grande proactivité au niveau de la détection pour faire des prises en charge rapides, confinées, puis trouver les meilleures solutions pour mettre en œuvre puis assurer une meilleure sécurité. Mais bon, c'est ma petite opinion là-dessus.
Ouais, je suis très d'accord. Je suis généralement très défavorable à des pénalités excessives ou ce genre de choses-là. À la limite, j'aime bien l'approche du Sarbanes-Oxley dans laquelle on tient criminellement responsable les hauts dirigeants pour certaines actions. Généralement, ça a un effet assez vif sur les entreprises, justement, pour les faire bouger. Mais encore là, c'est un peu violent dans ce cas-ci de Sarbanes-Oxley. Ça avait été fait dans un contexte assez brutal d'un fiasco financier à ce moment-là et que le vérificateur avait pas joué son rôle. Il y avait eu un peu de copinage entre le vérificateur et les hauts dirigeants de l'entreprise. Donc, tout régler ce problème-là, c'est une chose. Dans ce cas-ci, je ne sais pas. Mais en même temps, comme tu mentionnes la chaîne d'approvisionnement, je sais que le gouvernement américain surtout le SBOM, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, chaque compagnie va devoir exprimer toute la dépendance de ses logiciels. Dans le cas de Log4j, on aurait vu apparaître dans ce SBOM-là tout ce qui en est, et donc on aurait peut-être vu davantage ce qu'il en était, justement d'agir de façon préemptive, mieux, plus encadrée, et justement là, de savoir que nous faisons ça. Puis je sais qu'au niveau des États-Unis, au niveau américain, c'est très clair. L'appareil public est un très bon levier pour amener les entreprises privées à adopter de meilleures pratiques, justement par le pouvoir d'achat du gouvernement américain. Généralement, ça a un effet assez direct et assez brutal sur la conformité à ces éléments-là, sans devoir agir par des pénalités. Parce que là, si on n'a pas accès au marché gouvernemental, généralement, c'est déjà une pénalité qui est assez grande. La barrière à l'entrée, elle est là. Fait qu'au lieu de taper sa tête, ben là, on essaie de forcer les gens à s'améliorer. Donc, on pourrait utiliser ce genre de choses-là au lieu d'utiliser des menaces comme le FTC fait. À la limite, le RGPD, mais même encore là, j'ai un peu, je ne cacherai pas ma méconnaissance de l'application, mais outre les grands cas largement médiatisés des grands géants de la GAFAM, j'ai pas beaucoup entendu de cas d'entreprises qui ont été poursuivis sur le RGPD dans lesquels il y a eu de la négligence. Donc, je sais pas, là, celle-là, faudrait m'informer, faudrait que je fasse des recherches, mais il me semble que ce n'est pas la perception en tant que Nord-Américain que ça l'a amené à une modification réelle du comportement des entreprises au niveau de la cyber. Donc, j'ai l'impression que ça, on le verra au Québec en septembre 2022. On va voir la première entrée en action de la PS64. La première vague, enfin, la vague la plus importante de mesure en termes de quantité va rentrer là. Donc, ça va être le moment où les entreprises devront se conformer. J'espère que ceux qui sont dans les entreprises, ceux qui nous écoutent sont dans les entreprises, que vos entreprises respectives ont déjà commencé à entamer les différentes démarches. Parce que j'ai l'impression que la veille, ce ne sera pas là le temps de décider qui est ton répondant en vie privée dans ton entreprise, qui est ton répondant de l'afficher sur ses doigts en panique parce que tu ne sais pas trop comment faire, puis tout va aller avec ça. Fait qu'il y a quand même une réflexion. J'ai hâte de voir. Je sais que en même temps, les États-Unis, c'est un Far West au niveau légal, au niveau encadrement, au niveau de ce genre de choses-là. C'est peut-être l'esprit Far West qu'il faudrait peut-être modifier un peu puis commencer à régulariser avec des lois ou en tout cas minimalement des choses qui incitent à un comportement, parce que je suis plus pour ça que je suis contre la pénalité. Je suis plus d'un type behavior economics, c'est-à-dire de mettre les incitatifs aux bonnes places pour que les gens adoptent des bons comportements. Ça, c'est une approche dans laquelle moi je trouve beaucoup plus favorable. Les États-Unis sont pas dans cette direction-là. Le point de vue très rigide européen avec les GRPD, je pense qu'on est complètement de l'autre côté, puis ils sont pas tout à fait là. Donc, l'incitatif de gagner plus d'argent parce que tu prends le bon comportement, par exemple, il est pas prêt. Je ne le sens pas présent. Je sens juste que si t'es mal, t'es puni, et pas si t'as bien fait, t'es félicité. Puis je pense que c'est plus dans cet axe-là qu'on devrait, à mon avis, aller. Ça nous permet de glisser vers l'autre nouvelle que j'avais aussi, où la Maison-Blanche a fait un sommet sur le source ouvert, justement dans le cas de Log4j. On en avait un peu parlé quand on avait divulgué la nouvelle, c'est-à-dire que c'est un peu dommage que tous ces gens qui utilisent du code ouvert ne contribuent pas à celui-ci. Donc, à ce moment-là, on se trouve dans un contexte où là, puis c'est là où la chaîne d'approvisionnement, ces éléments-là vont jouer en faveur d'une amélioration du source ouvert, dans le sens où si chaque compagnie avait décidé chaque grande compagnie, on va dire, de faire un audit du code de ces logiciels libres-là, mais à ce moment-là, on s'en serait trouvé qu'on en aurait bénéficié. Fait que là, toute la mythe de plus il y a deux yeux, plus le code est sécuritaire, c'est complètement faux. Ça vient de le démontrer clairement. Est-ce qu'on devrait lancer de l'argent à ce problème-là? Non, pas de façon directe, mais minimum un effort concerté pour que les grandes entreprises qui utilisent Microsoft, Amazon, Google, Apple, tous ces grands-là, Facebook, retournent à la communauté par des audits de sécurité, par de l'amélioration au code open source, par cette forme de contribution-là qui devient structurelle parce qu'elle est quand même importante et transversale sur tout ce qu'on est. Donc, si investir quelques dollars un peu de temps en temps, puis je pense que tout le monde va s'en porter beaucoup mieux après ça.
Ouais, mais je pense que avec les géants qui fournissent les entités avec des progiciels, je dirais, très distincts, très fermés, puis la traque à côté avec ceux qui produisent des logiciels libres, les free guys qui produisent ces logiciels-là, c'est le comportement des acquéreurs. le comportement des acquéreurs, je pense que c'est là qu'il faut, faut donner un petit coup de barre, un petit coup de fouet en disant, écoutez, vous achetez une grosse grappe de serveur Windows, puis avec l'achat, ben Windows, Microsoft est en arrière, puis vous dites, hey, by the way, pendant X années, tu vas avoir du service après-vente, là. Puis si tu veux poursuivre le service, ben on a différentes gammes de produits supplémentaires qui vont t'assurer un support. Donc, on n'a pas l'automatisme de prendre en compte la désuétude, les vulnérabilités, les rehaussements de sécurité, etc. Parce que on se sent protégé puis on est rassuré parce que le constructeur l'a fait pour nous autres. Logiciel libre, un, c'est le même scénario, mais dans les deux scénarios, les entités doivent prendre leurs responsabilités, doivent évaluer leurs risques, puis doivent s'assurer de sécuriser aussi le périmètre, de ne pas attendre qu'il y ait des découvertes de vulnérabilités, qu'il y ait des rehaussements. Vous devez prendre la responsabilité qu'avec le logiciel libre, vous avez, peut-être que le service n'est pas le même et la rapidité de rehaussement des versions et de rehaussement des correctifs, ça ne va pas à la même vitesse. Puis, ils ne vous promettent pas des fenêtres de temps pour assurer un service adéquat. Faut que vous preniez vos responsabilités vis-à-vis du logiciel libre. C'est pas, ça se fait pas à la même cadence. C'est pas le même pace. Je parle un petit peu de franglais ici. Mais vous devez vous assurer qu'à l'interne, bien, vous avez du personnel qui ont les compétences sur les versions que vous achetez pour assurer une forme de vigie, puis assurer le périmètre de sécurité, puis penser à un plan B, un plan A tout de suite. Si jamais il y avait une faille, le temps que le correctif soit produit, il n'est pas plus garanti. Même quand il y a de la vigie puis des découvertes qui sont publiées, il y a des CVE qui sont publiées à gauche puis à droite, on garantit pas qu'il va y avoir dans une fréquence X des correctifs qui vont être disponibles. N'oubliez pas, logiciel libre, c'est des constructeurs de logiciels qui sont libertins. Ils travaillent à leur rythme, pas à votre au rythme des entités. Donc, faut gérer les attentes. Faut les gérer d'une façon différente. Faut peut-être assurer une meilleure vigie, pas que c'est des moins bons logiciels, mais l'approche, faut qu'elle soit différente que de dire, hey, Microsoft, j'ai un problème ici. C'est pas compliqué. Vous avez le service Gold. En 5 minutes, il y a un gestionnaire qui vous appelle chez Microsoft et dit, OK, t'attaches ta tuque, tu m'écoutes, t'as-tu des gens prêts? Paf, on prend action. Ding, ding, ding. Logiciel libre, là, je le sais pas, là, mais Martin Gagnon, là, qui a produit le logiciel avec 7 à 800 de ses chums à travers la planète, pense pas qu'il va vous rappeler ou qu'il a laissé son numéro de téléphone. Là, j'ai dit un nom totalement arbitraire. Là, s'il y a Martin qui nous écoute, là, ben écoute, tant mieux. Mais c'est que l'approche est différente. La gestion du risque est différente. Mais somme toute, il faut que vous assuriez une vigie très dynamique là-dessus. Là.
Ben, entre autres, puis on va dire, j'aime ça, tu as parlé de Microsoft. Microsoft est un utilisateur de logiciels en source ouverte, de librairies, de bibliothèques en source ouverte. L'ont pas invité pour Log4j tant que ça parce que c'est pas dans leur univers, mais ils ont CosmoDB est un exemple de choses qu'ils ont utilisées qui viennent du source ouverte, qui étaient vulnérables et qui ont connu justement ChaosDB, qui a été une vulnérabilité qui a touché leur service de façon assez brutale en 2021. Donc, à ce moment-là, c'est justement eux autres. Même Microsoft aurait dû, ou avant d'intégrer un logiciel comme ça, là, ben, c'est pas CosmosDB, c'est Jupyter Notebook qui était visé. Avant d'utiliser, il aurait dû faire un due diligence de base. Est-ce que tu aimes bien chaleureusement un due deal? Justement, d'aller vérifier si le code était problématique et s'il l'était, de retourner au créateur, dire voici ce qu'on a trouvé comme problème. Pouvez-vous le corriger? Ou voici comment le corriger, comment nous on le fait. Parce que nous, on a déjà appliqué correctif parce que nos systèmes de production sur lesquels on revend à nos clients, sur lesquels on fait de l'argent dessus, on espère que ça soit le plus haut standard possible. Donc là, ils ont un peu échoué sur le plus haut standard possible. Donc, tout ça est assez préoccupant. Puis ce qui est dangereux là-dedans, c'est que si personne prend ses responsabilités, le législateur va intervenir, va mettre des lois imparfaites que le monde va bitcher parce qu'ils sont imparfaites, qui vont aller puiser dans l'argent des compagnies de façon imparfaite pour aller refinancer des groupes de travail qui, justement, vont aider à corriger ces problèmes-là, parce que c'est quand même majeur. Le gouvernement américain, puis j'ai l'impression que le gouvernement à travers le monde, ont perçu à quel point c'était critique, cet élément-là. C'est-à-dire que c'est comme si tous les ponts étaient brisés d'un coup sec. Du jour au lendemain, tous les ponts sont brisés. Donc, ça a un impact réel très important sur nos infrastructures numériques, là. Puis là, tu sais, je suis pas un très grand fan de la crypto-monnaie, puis du blockchain, puis ainsi de suite. Mais cela dit, tout cet univers-là qui nous favorise une plus grande augmentation de dépendance au virtuel en termes de monnaie virtuelle, ou même Meta chez Facebook qui mettent énormément d'énergie pour tout le volet réalité augmentée. Ça va devenir grave, là, si vous n'êtes pas capable de mettre vos infrastructures droit, puis que des gens peuvent casser vos infrastructures facilement. Je pense qu'il y a des préoccupations à avoir, puis je pense que pour la vie humaine, la santé des gens, la protection des gens, on n'est pas tout à fait là si on n'est pas capable de corriger un bug qui était un feature en plus dans Log4j. C'est ça qui est malade, c'est un feature qui est devenu un bug parce que il a été pas implanté pour ça, il répondait à un besoin X. Les gens n'ont jamais regardé, l'ont implanté les yeux fermés, puis pouf, ça voici ce que ça a donné. Fait qu'il y a ça aussi, les intégrateurs de qui utilisent du code ouvert. Faites votre job, analysez, prenez pas juste les yeux fermés, puis mettez votre chose là-dedans. OpenSSL, c'est ça, il y a plusieurs années, c'était le même problème. Dans quel Théo de Rat a fait un coup de gueule là-dessus assez monumental, avec LibreSSL, justement, pour envoyer bouler les gens d'OpenSSL parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient été négligents. C'est sûr que lui, c'est un personnage particulier qui a cette capacité-là d'envoyer bouler pour qui il veut dans le logiciel parce qu'il livre. Mais cela étant, on est dans un état assez grave. On en a déjà parlé, on va sûrement y revenir. J'ai pas mal fini. J'ai pas mal fini pour aujourd'hui de chialer là-dessus puis d'année qu'on paye pour cette espèce de gloutonnerie puis de pas rien retourner à la communauté, là. Et basculons à la nouvelle de Vincent qui est justement supprimé son empreinte numérique, qui est quand même un aspect important, qui est de plus en plus important maintenant. Il y a plus en plus de gens qui s'y intéressent justement parce que les effets de l'empreinte numérique sont de plus en plus vastes et ne peuvent nous causer des préjudices. On fait juste regarder par les publicités ciblées qui nous arrivent et tous ces éléments-là qui sont relativement anodins. Mais il y a d'autres éléments qui sont beaucoup moins anodins que ces informations-là puissent nous nuire à notre capacité et à notre bonheur en général.
Ouais. On va reprendre un petit peu l'introduction sur le site où j'ai récupéré la nouvelle. On se lève un beau matin, là. On prend conscience que notre vie passée devant les écrans, c'était pas juste pour notre bonheur. Il y a des acteurs en arrière. Malgré le fait qu'on achète ou non leurs produits, ben, on a fait leur bonheur également parce qu'ils ont réussi à récupérer nos comportements de consommation Internet. C'est le facteur, je ne veux pas dire aggravant, parce que je ne veux pas utiliser un terme négatif, mais l'accélérateur a été l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook notamment, où Facebook avait, dans son engrenage de développement et de rehaussement de plateforme, utiliser quelques subterfuges à notre insu, entre autres pour capter à notre insu nos comportements, qu'est-ce qu'on consommait le plus, créer des formes de profils et se rendre compte éventuellement qu'on pouvait cibler des personnes en particulier qui avaient tel ou tel profil. Il y a des... ensuite de ça, il y a tous les LinkedIn, Instagram, etc. qui sont apparus. Google également, qui récupère ces données-là, tout en ayant comme argument favoriser l'expérience utilisateur. Puis, la majorité des gros financiers là-dedans, les fameuses agences de pub, ont trouvé aussi le Saint Graal avec ce type d'informations-là pour être capables de poster des pubs de leurs clients, mais qui correspondent à nos intérêts. Donc, il y a comme une grosse toile d'araignée qui s'est graduellement tissée au fil des années, pour lesquelles, quand ils voient arriver un utilisateur, il y a un algorithme en arrière qui est capable de dire « Hey, c'est Vincent qui est connecté. Ah oui, go, Vincent, son profil, ses rêves, ses désirs, sa consommation, tout est là. » Fait qu'on va y pitcher un paquet de pubs à gauche et à droite, télémarketing, courriel de produits quelconques à gauche et à droite. Fait que là, on se lève un matin et on se dit « OK, ça suffit. Comment je fais? » Ben, l'article que je vous envoie, c'est pas complet, c'est sommaire, à cause de la complexité de cette toile-là qui s'est grandement diversifiée au fil des années. Il y a ce qu'on appelle des courtiers en données, hein, des brokers qui, au fil des ans, se sont imposés et qui ont acheté vos données comportementales pour toutes sortes de raisons. Mais bien entendu, c'est des courtiers. Ces courtiers-là ont des clients. Les clients ont des besoins pour rehausser les ventes X, Y, Z, atteindre une dimension de population qui est intéressée par leurs produits, puis une diffusion de leur message publicitaire à ces gens-là dans le but d'influencer le consommateur, vous et moi, pour acheter leurs produits. Fait que c'est rendu hautement complexe, mais il y a moyen, à partir de l'article que je vous ai donné, il y a une liste qui est incomplète, bien entendu, parce que sachez également que au travers de nos données comportementales qui sont dispersées dans la toile Internet, la toile se rend aussi dans des pays très hermétiques. De demander à soit des courtiers ou des publicitaires des pays de l'Est, je vais rester poli ici, vous atteindrez pas les courtiers, les brokers, ça risque d'être extrêmement complexe pour vous, mais du moins dans le monde occidental, dimension un petit peu plus démocratique, capitaliste, etc. Il y a une liste qui est incomplète, mais somme toute assez exhaustive, de différents moyens et de différentes pistes pour commencer justement à supprimer votre empreinte. En passant, fichiers, outils, options Internet, onglet connexion ou peu importe, là, puis supprimer les cookies ou supprimer l'historique, ça ne supprime rien, là. Ça fait juste de la place sur votre machine. C'est tout. Ça vient supprimer ce qui a été copié sur votre machine pour un accélérateur de chargement de page, tout simplement. Là. Ben, vos données, là, ils ont transité chez Google. Google, à un certain moment, était moins contraint par des législations quelconques. Ils ont vendu vos données. Ils ont distribué vos données. Facebook l'a fait. Microsoft l'a fait. Tout le monde l'a fait, en fait, pour mousser son capital de financement, peu importe. Fait qu'il y a un paquet de brokers, justement. Fait que si ça vous tente d'aller lire, aller vous informer, regardez les différents brokers qui sont ici. Sachez par contre, il n'y a pas un broker qui va faire ça pour vous. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça pour vous. C'est vraiment une démarche qui vous appartient. Puis c'est long, c'est complexe, c'est fastidieux, c'est répétitif. Mais vous allez trouver là toutes sortes de choses, toutes sortes d'éléments, toutes sortes de listes. Puis vous risquez peut-être même d'être un peu impressionné au niveau des brokers, là, des compagnies dont j'avais jamais entendu parler. Je connais même pas le nom. Puis ces gens-là, possiblement dans un de leurs serveurs, dans l'info nuagique, dans le sous-sol d'un étranger à quelque part en Amérique ou en Europe, ben, il y a des données qui me concernent moi, qui ont peut-être même pas été exploitées, mais qui peuvent être à tout moment activées pour une raison X ou une autre. Fait que c'est le fameux terme qu'on emploie, le droit à l'oubli. Puis ceux qui ont écouté The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, le troisième des Batman, Batwoman cherche à mettre la main sur une clé USB qui contient justement le logiciel qui permet une automatisation du droit à l'oubli dans l'ensemble des serveurs de la planète. Belle utopie, mais écoutez, on est à Gotham, là, qui ressemble royalement à Chicago, bien entendu, là, mais c'est exactement le même principe. Madame veut effacer sa trace numérique. Ben ici, le droit à l'oubli vient de... Je sais pas que ça vient du film, là, mais c'est le même terme employé, mais le principe est le même. C'est d'effacer votre empreinte numérique en pensant que vous allez repartir complètement à neuf, comme si vous aviez vidé le cache de votre Internet Explorer comme à l'époque. Là. Ce qui était le cas, parce que personne n'emmagasinait nos données, il n'y avait pas d'intérêt. Je parle des années 90, là. Je recule loin, mais l'idée est là. Il y a des gens qui s'intéressent. La suppression absolue, je suis pas certain.
Oui, non, ça, je te rejoins. Le droit à l'oubli est codifié dans la RGPD, est codifié dans la PL64. Il va probablement être codifié dans les autres lois canadiennes qui vont naître de protection comme ça. Là, tu parlais des pays qui, dans des régimes légaux dans lesquels nous sommes familiers, c'est-à-dire l'Europe en général, l'Europe de l'Ouest, et l'Amérique du Nord, dans laquelle on est en une certaine forme de confort parce que c'est l'univers dans lequel on est. Faut se rappeler que TikTok, c'est une compagnie chinoise qui collectionne l'information sur nous et qui est complètement dehors de notre régime de protection dans lequel on est habitué. Donc, faire effacer, comme tu dis, de faire effacer nos données, soit chez un broker chinois, ou même chez TikTok, peut s'avérer très compliqué de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça parce qu'ils sont soumis à aucune de nos règles. Aucune. Les règles de protection de vie privée qu'ils ont sont adressées pour les Chinois et encore, je ne sais pas à quel point ça les protège tant que ça. L'appétit du pouvoir central en Chine, il est très, très vaste. C'est la même chose dans les compagnies russes. Par exemple, il y a Telegram, qui est une compagnie russe de communication supposément sécurisée. Il reste à démontrer à quel point elle est vraiment sécurisée parce qu'il y a beaucoup de règles en Russie qui empêchent l'usage de VPN, par exemple, donc qui empêchent l'usage de communication chiffrée bout en bout. Donc, c'est à voir à quel point Telegram permet ou respecte son annonce de chiffrement bout en bout quand elle s'est disponible dans ses différents services. Donc, est-ce que l'information qu'on met dans Telegram va être effacée un jour? Qui sait? Est-ce que cette information-là peut être questionnée par le gouvernement russe à tout moment? Ils sont sur leur terrain, ils sont chez eux, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et est-ce qu'on pourrait faire effacer nos informations puis exiger? Je suis pas sûr qu'on ait une réponse très positive, à la limite courtoise, mais je pense que ça va arrêter là. S'ils veulent pas les effacer pour peu importe la raison, cette information-là ne pourra jamais être effacée parce qu'ils sont chez eux. Parce qu'on n'a pas de recours comme dans la plupart des pays ce qu'on appelle l'Occident, dans lesquels, ou le First World, tant qu'à utiliser des segmentations comme ça. Non. Fait que on est comme dans un drôle d'univers. Fait que, c'est parce qu'il faut faire très attention. Puis même la difficulté qu'on rencontre au niveau du droit à l'oubli, il n'est pas absolu le droit à l'oubli dans les lois qu'on a, donc c'est quand même des limites. Puis comme Vincent disait, c'est un travail dégueulasse à faire. Il y a des firmes spécialisées qui vont pouvoir vous accompagner. Je connais certaines personnes dans mon entourage qui en ont déjà fait un peu de ce genre de choses-là, mais c'est très dispendieux en temps. Il y a très peu d'automatisation possible parce que tout est propriétaire un peu partout. Chacun a son petit jardin d'informations qu'il conserve sur nous. Tu as les data brokers aussi qui sont un autre problème en soi, qui sont des espèces d'entrepôts d'informations qui doivent probablement chacun avoir une copie de ce que l'autre a de toute façon et ainsi de suite. Donc, c'est à l'infini. Une fois que l'information est rendue sur Internet, très, très, très difficile. Les ressources qui sont mentionnées dans ça sont intéressantes. Il faut les consulter. Faites le chemin si vous devez. Je connais ça. C'est vrai, il y a un podcast aux États-Unis qui est spécialement un podcast. Le dude qui fait le podcast à sa compagnie, qui est spécialisé dans ce genre de choses-là, là, Austin Privacy, je le mets dans les show notes parce que ce gars-là est ultra intéressant en termes de regard. C'est pas fait pour tout le monde parce que la façon qu'il regarde les choses, c'est non orthodoxe. Dans certains cas, j'ai été un peu chatouillé par comment il dit, comment il aborde les choses, mais c'est demain très intéressant parce qu'il nous amène dans une zone qui est autre, dans laquelle on n'est pas habitué d'être, comment on peut justement se prémunir contre le tracking quand on a un cellulaire, comment utiliser un Android sans qu'il devienne un agent de renseignement pour Google, par exemple, comment de faire les choses comme ça. Puis ce dude-là, il va aller jusqu'à très loin. Il va expliquer les moyens techniques, là, comme pour l'Android, par exemple. Il va expliquer comment aller retirer tous les packages qu'on ne veut pas dans un Android, justement pour limiter le tracking qui est fait et à quel point on peut contourner les limitations qui sont imposées. C'est qu'il y a certains normaux packages qu'on peut même pas désactiver ou qu'on peut juste désactiver, mais on peut pas désinstaller. Lui, il explique comment passer par-dessus ces limites-là. Fait que c'est très intéressant. Il y a un livre, je suis heureux de l'acheter aussi, qui est très intéressant, là. Et c'est un peu, c'est ça qui finance un peu son podcast. Mais il explique plein de cas vécus, comment les gens disparaissent, comment les cartes de loyauté fonctionnent, comment tout ça, ces traces-là. Puis là, Vincent parle de traces dans le monde virtuel, pur, mais dans le monde physique, les cartes de loyauté. Au Québec, on a celle de la SAQ, par exemple. Si la carte n'est pas activée, on peut hijacker la carte de quelqu'un d'autre, ça n'est pas activé. Si c'est activé, on peut aller potentiellement aller réussir à faire des choses comme ça. Le gars expliquait que dans les cartes de fidélité d'un club de sport, par exemple, c'est la même chose. Si tu viens pas réclamer, le problème, c'est que quand on réussit à réclamer la carte, on voit tous les achats qui ont été faits avec la carte. Fait qu'on est capable de profiler les gens. Fait que c'est tout le plein, c'est plein de petits détails comme ça qui dépassent encore plus l'article, dans lequel je crois qu'on maîtrise très peu ce qu'on est vraiment et à quel point nos informations là, sont férales. On retourne à l'état naturel puis ils courent dans la brousse. Nos informations se reproduisent librement dans l'univers dans lequel on les a mis puis on n'a absolument plus de contrôle sur cette situation-là.
Non, effectivement. C'est complexe, c'est malheureusement pas complet, puis rien n'empêche que vous pouvez avoir le droit, appliquer votre droit à méfiance aussi, là, qu'une fois que vous avez appliqué l'ensemble de la démarche sur ce qui est disponible pour supprimer vos données résident ailleurs, dans des endroits où c'est impossible justement de faire appliquer votre droit à l'oubli, il n'est pas impossible que vos données éventuellement réapparaissent chez certains brokers où vous avez demandé une suppression, puis ça recommence à circuler et là, la pub, c'est page web, là, vous oubliez ça, là, vous n'empêcherez pas ça. Là. Ils veulent absolument nous mettre de la pub. Ce qu'on fait, là, on va sur un site, on sait que la pub est à gauche, mais on ne regarde plus à gauche. Hein? On a l'automatisme de ne plus regarder à gauche, l'autre site, il est à droite, on ne regarde plus à droite, on est rendu habitué à ça. La pub, on n'y échappera pas. Elle va juste être, elle sera plus personnalisée selon vos comportements de consommation, tout simplement, mais d'avoir la certitude que votre empreinte numérique est supprimée partout, j'en doute fort. Sachez que les brokers, les fameux courtiers, ont une clientèle, puis c'est souvent pour de la pub. Il n'y a rien qui empêche les clients, une fois qu'ils ont exprimé leurs besoins en termes de dimension comportementale pour vous atteindre et que l'algorithme du broker marketing réussit justement à trouver l'ensemble des données qui correspondent à votre comportement. Nous puis nos homologues un peu partout sur la planète, rien qui empêche un ou des clients de ce broker-là dans le contrat peut-être de faire l'acquisition aussi de vos données. C'est qui leur client? Bien, rendu là, le broker, ça les a clients confidentiels. C'est pas énuméré, c'est pas énoncé. Fait que c'est pas impossible que vos données se soient ramassées. Ça se peut qu'il y ait un backup virtuel online sur lequel vos données n'ont pas été effacées, qui arrive bêtement à un incident où on doit récupérer des données, puis votre demande de droit à l'oubli est tombée à l'eau parce que les données ont été récupérées à cause d'un incident. Ils ont dû reculer dans le temps. Vos données sont réintroduites dans la base de données. Puis l'algorithme, quand il passe à son cycle de production, il réintroduit vos données. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui pourraient faire en sorte de compromettre justement votre démarche puis l'énergie que vous allez mettre à faire ça. Je cherche pas à vous décourager. Je vous dis juste que il y a des petites zones grises. Il y a des petits événements qui peuvent venir perturber votre démarche. Et puis, vous vous retrouvez dans le bucket. Tu parlais d'Android, iOS, en fait, permettez-moi l'expression colorée, chier en tabarnak. Les publicitaires puis les producteurs de logiciels iOS, en mentionnant que la dernière version majeure qu'on a eue, je pense en septembre ou octobre passé, Apple a annoncé, là, on va mettre une fonctionnalité qui va dire... Et à l'utilisateur lors de l'installation, voulez-vous que vos données d'utilisation soient communiquées à? Puis si vous dites non, ben soyez tranquille, elles ne seront pas communiquées. Pourquoi? Parce que ces données-là d'utilisation du petit jeu ou d'application, c'est une mine d'or justement pour le constructeur du logiciel ou peut-être même le courtier du constructeur de logiciel avec qui il fait affaire. Parce que pour lui, c'est des munitions pour étendre justement la portée de ses publicités pour augmenter justement le volume de téléchargement et ou de vente. Fait que très dictateur comme mesure, moi je l'apprécie beaucoup en passant, très dictateur, mais ça me donne une forme, ça me rassure justement que un petit jeu de cartes que j'ai, là, qui pour lequel je brûle du temps une fois de temps en temps, là, ben moi, il me détend. Mais je joue aux cartes. Je veux pas qu'on récupère mes données de consommation de jouage de cartes. Je trouve ça niaisant en crise. Puis deux, c'est moi qui joue aux cartes tout seul. Je joue pas en ligne, là. Fait que je publie pas mon petit jeu personnel, là. Même. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, là. Mais bon. Alors, voilà.
Entièrement d'accord avec ça. On est rendu là. Ben, c'est ça. Il y a eu quelques études sur justement, comme tu m'as dit, iOS 15 qui réduit la capacité publicitaire à cibler. Il y a encore, c'est pas parfait. Il y a encore des failles dans le système qu'Apple a mis en place. C'est un peu, c'est un peu dommage de la stratégie d'Apple. C'est-à-dire que toute cette espèce de campagne publicitaire qui fait l'apologie de cette fonctionnalité-là. Et en même temps, toute l'imperfection de celle-ci et la vitesse pas très rapide d'Apple de corriger les choses. En fait, ça, regardez ce qui s'est passé. C'est ça, au moment de l'enregistrement, il y a une faille dans Safari sur iOS et sur macOS. Et au moment où on se parle, il n'y a pas de correctif disponible nulle part. Autre que de bébélé, il existe quelque chose de bébélé, là, mais quelque chose que pour le grand public, il n'existe rien. Apple n'est pas super rapide. Semblerait que la faille aurait été divulguée en novembre dernier et ils n'ont pas encore réagi. Ce manque de réactivité-là est un peu déplaisant à bien des égards. Fait que là, c'est dans le fond, de quel des deux mots on choisit? On protège notre vie privée avec Apple, mais de façon imparfaite avec des trous. Ou on le voit avec un Google Android qui est monté pour justement faire une invasion grave dans nos vies. Fait que on finit par, peu importe le choix, on finit par perdre de toute façon. Donc, tout ça est très, au bout du compte, très triste que ces outils qu'on aime tant maintenant soient aussi problématiques que ça pour la protection de nos vies. Moi, ça compléterait les nouvelles.
Puis, juste de même entre nous, là, à quel moment, on a-tu un moment relativement précis où la collecte des données de notre comportement et notre consommation Internet a débuté? Qui l'a fait en premier? T'sais, est-ce qu'on est capable vraiment de pointer un moment? Puis si vous voulez mon humble avis, si ça fait déjà plus de juste 5 ans, nos données sont partout, là. Nos données sont vraiment éparpillées dans le big data d'un tiers ici, d'un tiers là, d'un autre, d'un autre, d'un autre. Commencer à retracer tout ça, c'est on a beau avoir des pistes, des suggestions, prenez pas ça pour du cash. Prenez ça comme une démarche, puis c'est très personnel, puis libre à vous de prendre ou non une décision d'entreprendre, mais il y a personne qui garantit justement la suppression. On connaît pas le moment où la collecte a commencé, puis il y a probablement des compagnies dont on ignore totalement l'existence, parce que c'est un 9141-0573 Québec Inc. qui appartient à, je sais pas moi, à Roger, puis lui, il collecte des données, mais on connaît pas son offre de service. C'est juste un bon vieux Québec Inc., puis on sait pas ce qu'il fait, mais il est peut-être dans l'univers de la collecte, de la transformation, puis de l'interprétation de la donnée aussi. Là. Fait que je vous m'en garde là-dessus. Là. On n'a pas tous les tenants et aboutissants. Là. Notre comportement est probablement quelque part dans une IA qui est en train de se dire à quel moment je vais lâcher les guns. Là.
Ouais, si ça pourrait servir pour sauver des vies humaines, on aurait probablement aux États-Unis beaucoup moins de choses comme ça. Mais bref, oui, c'est très problématique. Ça compléterait pour cette semaine. On a largement débattu de trois sujets. Je pense que plus que ça, ça devient de l'acharnement. Donc, sur ce...
ouais, non, je fais juste rire de ton comportement. Je trouvais ça excellent. On est tenace.
Très tenace. Fait qu'ensuite, une à deux semaines avant qu'on vous revienne avec un prochain épisode.
Oui. Puis, profitez de l'hiver. Moi, j'en profite pas, j'haïs l'hiver.
À la maison, je suis dans ma grotte, je suis au chaud. J'ai même plus besoin de sortir pour aller travailler. C'est merveilleux.
Ça, c'est cool. Pareil pour moi. Et sur ça, salut!
Salut!